Bonjour à tous et à toutes, ici Catherine Ego. Dans cet épisode des Pulls à l'antenne, le balado des presses de l'Université Laval, Christophe Point, professeur adjoint au département de l'enseignement au préscolaire et au primaire de la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, présente son livre « Université et démocratie, la pensée éducative de John Dewey », publié au Pull en 2023. L'auteur synthétise dans cet ouvrage la réflexion du pédagogue et philosophe pragmatiste John Dewey, l'évolution de sa pensée ainsi que diverses expérimentations qu'il a réalisées dans le domaine de l'éducation. Prônant le recours à l'intelligence collective ancrée dans l'expérience concrète plutôt qu'aux experts, John Dewey plaide en faveur d'une université pluraliste, accessible et ouverte à tous et à toutes, notamment au moyen d'une mise en commun des connaissances qui dépasse le cadre habituel des cours magistraux. Que nous apprend John Dewey aujourd'hui? Pourquoi fréquenter l'université? À quoi sert-elle? Christophe Point montre ici que, loin du bloc monolithique qu'elle semble parfois être, l'université est en réalité parcourue d'imaginaires concurrents qui la redéfinissent constamment. Christophe Point, bonjour.
Bonjour.
Dans Université et démocratie, vous vous intéressez à la pensée éducative de John Dewey. Pouvez-vous nous dire qui était John Dewey?
John Dewey était un philosophe et un pédagogue de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il a vécu vraiment extrêmement longtemps, presque un siècle. Et donc, il est sur cette période aux États-Unis et il va travailler plein de sujets très différents, mais qui ont un peu le point commun de se recouper autour de la philosophie et de l'éducation. Ce philosophe et ce pédagogue a beaucoup travaillé dans des universités américaines, mais il a aussi beaucoup voyagé dans le monde. Et c'est un peu tout son œuvre qui m'intéresse, et plus spécialement la partie sur l'éducation et sur l'université.
Il est de l'école pragmatiste?
Oui, exact. C'est l'un des représentants, avec Peirce, William James, Richard Horty, Chesterman. C'est un courant de philosophie qui a vraiment pour principe de se dire que l'on connaît le monde à partir de l'action. C'est en agissant qu'on connaît le monde, qu'on le transforme et qu'on se transforme aussi soi-même. C'est un courant de philosophie qui est ni idéaliste comme certains courants de philosophie allemande, ni empirique comme certains penseurs anglais plutôt, mais qui est vraiment au croisement entre les deux. Et c'est une philosophie qu'on redécouvre maintenant, depuis quelques décennies, en France, au Québec et un peu dans le monde entier.
John Dewey n'a jamais écrit spécifiquement de livre sur l'université et la démocratie. Donc vous, quelle était votre démarche pour extraire sa pensée?
Alors ça, c'était effectivement, c'est le point de départ du livre. Effectivement, c'est une frustration que j'avais parce que John Dewey parle de la démocratie, parle beaucoup de l'école. Et moi, je le lisais en me disant, je vais chercher chez John Dewey le livre où il va parler de l'université. L'université étant une institution qui sert à éduquer, comme l'école primaire ou l'école secondaire, je vais trouver un livre de John Dewey qui va parler du rôle de l'université dans la démocratie. Et ce livre n'existe pas. Il n'a pas écrit spécifiquement sur l'université. Pour comprendre ce que John Dewey pense de l'université, il faut aller voir dans certains de ses ouvrages, certains chapitres, ou alors des articles de journaux ou des conférences, voire même parfois des lettres qu'il a écrites à sa femme ou à des amis, pour regrouper tout ça, petit bout par petit bout, pour comprendre quelle était la conception de l'université de John Dewey. Donc ça a été, c'était un peu le travail que j'ai fait dans ce livre, en fait.
De recherche dans les archives. Vraiment.
Voilà, les archives, en allant piocher un peu à droite, en faisant attention au texte qui est écrit en 1910. Qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce que ça évolue en 1920, puis ensuite en 1930? Il y a un peu tout cette... suivre un peu la pensée de l'auteur qui évolue, parce qu'il a changé de position sur certains plans au cours de sa carrière. Et voilà. Et puis aussi de voir un peu au-delà de ce que John Dewey disait de l'université, voir un peu quelle était sa pratique, qu'est-ce qu'il a essayé lui-même, quel genre d'enseignant c'était, et de collègues. Donc voilà, c'était un peu le travail d'archive du livre.
Et le cœur de ses recherches, de sa réflexion, c'est la démocratie. Mais c'est une jeune notion à l'époque, c'est relativement jeune, contrairement à l'université qui est millénaire.
Alors les deux, c'est ça qui est intéressant, c'est que à la fin de la guerre de la sécession aux États-Unis, on est vraiment dans un pays extrêmement neuf, dans le sens où tout est à construire pour cette nation qui se développe et qui est vraiment en expansion. Je crois que la population américaine triple ou quadruple en l'espace de 50 ans, par exemple. Le nombre d'étudiants augmente de 300% pareil à ce moment-là. Et c'était une époque où les États-Unis n'avaient pas encore leurs universités et se demandaient comment faire pour se doter d'ingénieurs, de chercheurs, de philosophes, de médecins, etc. Comment on crée ça? Et donc ils sont allés voir un peu partout dans le monde pour trouver quel était le modèle d'université qui les intéressait. Donc ils ont pris un peu le modèle anglais ou le modèle allemand, mais en le retransformant complètement, en se disant on va prendre un peu du modèle allemand, mais on va former les ingénieurs aussi, on va former les ingénieurs agricoles, par exemple. Ou alors on va prendre un peu du modèle anglais, mais par contre on va offrir 1 an, 2 ans, voire parfois 3 ans de scolarité à l'université gratuite pour les militaires qui revenaient de leur service militaire. Donc ils ont tout un peu transformé. Donc l'université, à l'époque, est encore quelque chose de relativement neuf dans le sens où tout est à réinventer. C'est sûr que ça existe depuis plusieurs siècles à son époque, mais la réalité de ce qu'est l'université, elle est encore très récente. Et pareil pour la démocratie. La démocratie, c'était à cette époque-là, une notion qui était très challengée par le fascisme, par le nazisme en Europe et tout le début aussi du libéralisme qui est à cette époque.
Qu'est-ce qu'une université pragmatiste ?
C'est une université qui arrive vraiment à faire croire aux étudiants et aux étudiantes qu'ensemble, on résout mieux ces problèmes que tout seul. C'est un peu ça l'idée de l'université. C'est-à-dire que l'université pragmatique serait une université où on transmettrait bien sûr du savoir, du savoir-faire, etc. Mais aussi des convictions, des valeurs qui seraient démocratiques au sens de John Dewey. Donc ici, il y aurait plus ou moins 5 grandes notions qui pourraient constituer le cœur de cette idée. Pour y aller rapidement, il y aurait la notion d'expérience. Il faut essayer les choses, expérimenter pour savoir si elles fonctionnent. Donc l'expérimentalisme qu'on peut avoir en démocratie, les conseils citoyens, les conseils de quartier, ça rentrerait là-dedans. Ensuite, il y aurait l'idée du méliorisme, c'est-à-dire que les choses peuvent toujours s'améliorer. On n'a jamais fini de trouver la bonne idée parfaite. Au contraire, il faut toujours chercher à améliorer les choses. Donc c'est une sorte de progressisme, mais qui est vraiment sans étape finale, sans idéal, mais qui est toujours en marche. Voilà, il y aurait ces deux idées. Il y aurait aussi l'idée des interactions, on va dire c'est l'idée de dire que les choses ne dépendent ni uniquement de moi-même, petit individu isolé, ni complètement de la société, de la structure, du système, mais que les choses se jouent dans les relations entre les individus. Et par exemple, lorsqu'il définit la notion de public, on ne va pas prendre la notion un peu abstraite de peuple ou de masse, etc. Mais on va dire, le public, c'est les gens qui se rencontrent et qui partagent ensemble un problème et qui vont essayer de résoudre ensemble le problème. Donc c'est ça un peu les interactions que ça peut créer. Donc voilà, il y a un ensemble comme ça de valeurs qui permettent de définir ce que c'est que la démocratie pour Dewey. Et une université pragmatiste, ce serait une université où on transmettrait ces valeurs-là aux étudiants.
Cette réflexion de Dewey, ça fait appel à l'intelligence collective. Quand vous dites on pense mieux, on agit mieux à plusieurs que tout seul.
Oui, exact. Il était beaucoup là-dedans parce que à son époque, on était c'était un pari qu'on faisait parce que on voyait en Europe justement l'effet que pouvait avoir un leader charismatique qui entraînerait les foules et que on enlève au peuple toute action pour réfléchir ou penser par lui-même. Et aux États-Unis, la question était aussi un peu en balancement. On se demandait, est-ce qu'il faut qu'on mise sur le collectif ou au contraire, est-ce qu'on va créer des experts qui vont décider à notre place ce qu'il en est? Et un de ses contradicteurs, Walter Lippmann, par exemple, lui, était de cet avis, était de dire, formons des experts et puis ces experts vont gérer les choses, pas besoin d'intelligence collective. Et au contraire, lui dit oui, est partisan de l'intelligence collective et dit non, au contraire, les problèmes sont mieux résolus si c'est les personnes qui sont concernées par ces problèmes qui s'attellent à les travailler et à les résoudre.
Alors ça veut dire que pour lui, l'université déjà doit accueillir plus de gens qu'elle n'en accueillerait dans une société élitiste. Elle doit accueillir notamment des gens dont les parents ne viennent pas de l'université. Accueillir aussi un pluralisme de valeurs, d'idées, de conceptions du monde. C'est nouveau, ça, à son époque ?
Oui, c'est nouveau. Et puis, ça, je l'ai beaucoup plutôt vu dans dans des discussions, des lettres ou même des articles de journaux, où par exemple, Dewey est complètement favorable de l'intégration des personnes immigrantes de l'époque aux États-Unis par l'université en disant « offrons-leur des cours d'université, intégrons-les dans les universités pour pouvoir faire en sorte qu'ensuite ils puissent s'intégrer davantage. »
Et apporter quelque chose aussi, j'imagine,
apporter quelque
pas
chose,
seulement les assimiler.
Tout à fait, il y a vraiment essayé de nourrir ça. Dewey ne croit pas du tout à un schéma type de l'Américain blanc, parfait, etc. Au contraire, il dit non, ça, cette image n'existe pas. Les États-Unis, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui viennent, elles ont toutes quelque chose à nous apprendre, et on va prendre tout ça. Donc les personnes immigrantes,
les femmes,
voilà aussi, j'allais le dire. Il a toujours eu des propos déjà très féministes pour son époque sur ce point-là. Il veut vraiment ouvrir l'université le plus possible. Il y a quelques passages très très brefs mais très nets sur les frais d'inscription. Il était vraiment partisan de baisser le plus possible les frais d'inscription pour que ce soit pas un frein pour personne. Il était aussi beaucoup dans l'idée de faire en sorte que l'université soit pas close sur elle-même, mais au contraire qu'elle soit ouverte dans la société avec des cours du soir, par exemple, ou avec des étudiants qui iraient participer à certaines tâches de travailleurs sociaux dans différents quartiers, puis revenir ensuite à l'université. Faire appel à des citoyens, des experts non universitaires pour faire des interventions dans les cours. Mmh. Il était vraiment partisan de cette méthode-là.
Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui ? Vous dites au début du livre que vous faites un cauchemar, où vous voyez l'université comme un champ de ruines, c'est-à-dire très éloigné de l'institution grandiose à laquelle vous aspirez. Puis vous dites, bon, finalement, je suis un petit peu revenu entre les deux, j'essaie de construire quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous apprend d'Oui par rapport à notre université d'aujourd'hui ?
En faisant mes recherches, je me suis rendu compte peu à peu que, à l'époque de John Dewey, vraiment la question de à quoi sert l'université, quel doit être l'idéal de l'université, c'était une question qui se posait. Peu à peu, j'ai l'impression que le siècle avançant, et jusqu'à nos jours, cette question ne se pose plus, en tout cas vraiment de façon très différente, parce que l'université a grandi, grossi, s'est divisé en facultés avec plusieurs objectifs. Bref, c'est devenu vraiment des grosses institutions qui ont parfois leurs enjeux propres, les questions de financement, les questions de stratégie, etc. Ce qui fait que la finalité de l'université, en tout cas pourquoi est-ce qu'on va à l'université, c'est une question qui est beaucoup plus difficile de faire émerger parce que les chercheurs sont eux-mêmes divisés dans des champs. Maintenant, ceux qui sont en sciences politiques, ceux qui sont en éducation, ceux qui sont en politique éducative, ceux qui sont en philosophie. Et ces gens-là discutent de moins ensemble qu'à l'époque de Dewey. Et puis surtout, ils n'ont plus le regard un peu général qu'ils pouvaient avoir, lui et d'autres. C'est pour ça que l'université de maintenant me semble plus complexe à faire bouger, puis on a un peu moins d'optimisme ou d'espoir pour changer cette université, pour la faire participer à la démocratie. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché aussi au Québec au moment des carrés rouges en 2012, voilà, où là, la question de l'université s'était réouverte. On disait, tiens, à quoi ça sert? Est-ce qu'on augmente les frais? Pourquoi est-ce que les gens voient une université? Qui doit participer à cette aventure?
L'accessibilité,
voilà. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des questions sur ce qu'était l'université qui étaient vraiment, vraiment intéressantes. Mais voilà, je trouve que c'est plus difficile maintenant de faire émerger ces questions et puis de faire en sorte que les personnes se saisissent de cet enjeu.
Il y a ce que vous appelez les imaginaires de l'université, et même vous parlez d'imaginaires prédateurs. Il y a des forces qui rôdent autour de l'université qui aimeraient bien en faire un petit peu des machines à fabriquer des employés modèles quelque part.
Oui, le terme imaginaire, c'est pas moi qui l'ai formé, c'est Ronald Barnett qui, dans une conférence que j'ai lue, il se propose plusieurs imaginaires à l'université, en disant, voilà, de quoi on rêve lorsqu'on pense à l'université. Et il liste comme ça une dizaine d'imaginaires, avec un imaginaire très néolibéral, par exemple, qui verrait l'université comme une entreprise lucrative uniquement. Il y aurait un imaginaire aussi très révolutionnaire, qui voudrait faire de l'université un endroit de formation des révolutionnaires, des citoyens extrêmement engagés, mais très politisés. Il y aurait aussi une version très conservateur qui voudrait faire que l'université redevienne une sorte de temple, une tour d'ivoire un peu fermée où seulement les savants entre eux réfléchiraient à leurs questions et ne participeraient pas du tout à la société. Et donc ces différents imaginaires existent et puis ils sont prédateurs dans le sens où ils vont parfois coloniser notre imaginaire et faire en sorte qu'on aura plus de difficultés à imaginer dans 100 ans l'université de telle façon ou de telle autre parce que ça sera devenu une évidence pour nous que l'université soit payante, par exemple.
Ou commanditée, des facultés de pharmacie commanditées par des chaînes de pharmacie,
c'est ça,
par exemple.
Voilà.
On a vu ça.
Mais il y a quelques années même, quelques mois, ça aurait été impensable de faire des cours à distance, des cours sur... Ouais. Des cours complètement séparés les uns des autres. Ça, c'était un imaginaire qui existait, mais qui était un peu faible, un peu lointain. Et puis, en 2 ou 3 ans, c'est devenu une évidence. Et maintenant, certaines maîtrises ou certains doctorats sont tout à distance. Des diplômes se donnent à distance. Voilà, je crois qu'il y a même une université en Angleterre qui physiquement ne possède que sa boîte aux lettres. C'est-à-dire que tous les professeurs travaillent chez eux, tout le personnel administratif travaille de chez eux, les étudiants étudient chez eux, le diplôme est envoyé par courriel, et donc physiquement, il n'y a pas de lieu, l'université n'existe pas à part la boîte aux lettres. Donc ça, c'est une réalité qui est possible, par exemple.
Quelle fonction de l'université, cette université-là, ne remplit-elle pas ? La transmission des connaissances, on peut supposer que ça fonctionne, mais il y a d'autres fonctions à l'université.
Tout à fait, il y a la fonction de transmission des connaissances, mais pour moi, il y a aussi la fonction aussi de préservation de la culture, dans le sens où l'université abrite des chercheurs qui travaillent sur les objets culturels, sur l'histoire, sur les savoirs, pour les conserver et les transmettre via les bibliothèques, les livres, les colloques, etc. Et puis enfin, la troisième fonction, c'est la fonction de formation, dans le sens où l'université a aussi pour rôle de former les étudiants qui viennent chez elle et les apprendre à être non seulement des bons travailleurs, mais aussi des bons citoyens et aussi des personnes. Donc c'est pour ça que le lieu est important, en fait. On a besoin d'une présence physique pour assurer cette tâche de formation.
Pour se frotter les uns aux autres aussi. Voilà. Doué parle de pluralisme, mais aussi pour se rencontrer.
Exactement.
Pour ne plus être
entre soi. Pour se rencontrer, pour voir d'autres étudiants qui viennent d'ailleurs, pour se confronter avec d'autres idées différentes des nôtres. Et ce lieu physique est important parce que sans ce lieu, il n'y a pas de rencontre possible et il n'y a pas de transformation de la personne, en fait.
Il n'y a pas l'expérience non plus dont parle Doué. Tout reste très abstrait, finalement.
C'est ça. Bon, on l'a vu, hein, pendant la pandémie, les étudiants qui... au lieu de se trouver une colocation, au lieu de déménager dans leur université pour commencer leurs études, sont restés chez leurs parents. Et ça faisait en sorte que il y avait plein de choses qui étaient moins bien apprises, moins bien comprises, parce qu'en fait, les étudiants se rencontrant entre eux, peuvent échanger sur ce qu'ils ont appris, se donner des trucs, des astuces, bref, apprendre leur métier d'étudiant en se rencontrant. Et sans lieu, ça, c'est pas possible.
Puis la rencontre, elle est indispensable à la coopération aussi. Ça, c'est un principe qui était cher à Doué, la coopération plus que la compétition.
Tout à fait. Il était vraiment partisan de la coopération là-dessus. Ensemble, on résout mieux ces problèmes que tout seul. C'est pas que Doué ne croit pas en la compétition, mais pour lui, c'est vraiment... la compétition n'est qu'une modalité de coopération, dans le fond. C'est une façon de travailler avec l'autre personne, mais c'est pas forcément la meilleure, c'est pas forcément la plus intéressante. Et donc, au contraire, il est vraiment plutôt partisan des pédagogies par projet, des travaux de groupe. Beaucoup de ses écrits, d'ailleurs, là-dessus, ont ensuite été repris pour les partisans de la pédagogie par projet. Et donc là, la coopération est indispensable.
Qu'est-ce qui menace l'université aujourd'hui, on va dire au Québec, par exemple? On a parlé un petit peu de commandite et de marchandisation, on a parlé de frais de scolarité.
Ouais.
Ça, c'est un frein pour vous? Est-ce que l'université remplit ses fonctions?
Tout à fait. Les frais de scolarité font en sorte que l'université est moins accessible qu'auparavant. La formation à distance peut être aussi un frein ou en tout cas une difficulté. Je pense qu'il y a aussi un danger qui peut venir du public lui-même, dans le sens où on irait à l'université forcément pour apprendre un métier. Il y a une forme de professionnalisation qui peut être très très pertinente, mais si on réduit le temps d'université à seulement le fait de se former professionnellement, eh bien on rate tout un ensemble d'expériences que peut offrir l'université qui peut être extrêmement extrêmement importante. Un étudiant qui commence une première année en histoire, par exemple, puis qui au bout de quelques mois se rend compte que l'histoire c'est pas forcément son truc et qui finalement va en sociaux ou en droit. Pour moi, c'est pas un étudiant qui a perdu son temps. Mm-hmm. Parce qu'au contraire, pendant tous ces mois où il s'est cherché, bah, il a pu lire des auteurs, s'ouvrir l'esprit en regardant différentes disciplines, différents cours. Il a pris le temps de se connaître aussi, de savoir ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Et tout ce temps de formation, de vie étudiante, fait en sorte que peut-être qu'à la fin, il ira en droit ou en économie, mais il aura eu tout ce temps pour réfléchir, pour profiter de cette expérience-là, en fait. Alors que s'il n'y a pas ce temps, les personnes vont directement aller travailler, auront moins de temps pour justement se découvrir et puis réfléchir à faire autre chose que ce qu'ils avaient imaginé au départ.
Et la fameuse liberté académique, on a été secoué par plusieurs controverses, même plusieurs scandales récemment, avec des mots qu'on pouvait ou pas prononcer dans le milieu universitaire. Est-ce que c'est une menace pour vous ?
Est-ce que la liberté académique est menacée ? J'ai vraiment des collègues qui me diraient oui, dans le sens où il y a des, comme on dit, il y a des scandales qui apparaissent, il y a des plaintes qui se font. Personnellement, de mon point de vue, je vois pas forcément ça. Là où j'ai travaillé dans une université en France ou au Québec, à Sherbrooke, j'ai l'impression qu'il y a encore une grande liberté de ton et de parole qui est vraiment très appréciée. Après, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de sujets sensibles qui existent. Il faut prendre le temps de les poser, ces sujets, de la façon la plus adéquate possible pour blesser personne. Mmh. Et ça me semble moins un obstacle qu'une exigence pour nous, les enseignants, de se dire, ok, je vais pas dire n'importe quoi de n'importe quelle façon, mais il faut que je réfléchisse à la bonne façon de le dire. Donc là, il y a un travail pédagogique, un travail éthique qui se fait, et c'est parce qu'il est exigeant qu'il est intéressant. Et je pense que quand les étudiants voient que on prend bien le temps de bien choisir ses mots pour parler de handicap, pour parler de sexualité, pour parler d'engagement politique, par exemple, ils y sont sensibles, ça. Mmh. La liberté académique, si on a le droit de tout dire tout ce que l'on veut, on a aussi l'exigence de le dire de la meilleure façon possible. Ça fait partie du jeu. Donc ça me semble pas tant une menace pour moi, mais une exigence, oui.
La démocratie à l'université, est-ce que c'est quelque chose qui s'enseigne ou est-ce que c'est quelque chose qui se vit dans le rapport, par exemple, entre étudiants et enseignants, ou est-ce que ça va jusqu'aux associations étudiantes, par exemple ?
Tout à fait, ça va jusqu'aux associations étudiantes et oui, ça se vit, ça se pratique, ça s'expérimente. Et donc la démocratie dans ce sens-là, ça peut venir effectivement par la vie universitaire, donc les associations, participer aussi au conseil des différentes instances dans l'université. Ça peut être aussi des choses qui sont possibles. Par exemple, en Italie, dans certaines universités italiennes, le président d'université, donc l'équivalent du recteur ici, est élu, mais par l'ensemble du personnel administratif. Donc pas seulement quelques enseignants ou quelques personnes qui siégeraient dans un conseil d'administration, mais c'est toutes les personnes, depuis le technicien de surface jusqu'à la personne qui s'occupe de la cantine, jusqu'aux personnes du secrétariat, toutes ces personnes vont élire un président. Donc là-dessus, déjà, il y a quelque chose d'un peu plus démocratique, parce que le président est comme obligé de considérer le point de vue de toutes ces personnes, en tout cas bien plus que s'il était juste élu par des membres d'un CA. Donc voilà, il y a ce biais-là. Après, ça peut aussi être dans les enseignements. Les étudiants pourraient davantage participer au contenu d'un cours en votant un programme de cours, par exemple, ou en faisant des suggestions, avoir un peu plus de mobilité comme ça entre l'enseignant et les étudiants. Donc l'université pourrait être dans l'enseignement aussi plus participatif. Et après, au sein de la société, l'université pourrait être plus démocratique en peut-être se saisissant plus facilement des problèmes de la société en général ou du quartier où elle habiterait. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir une université plus ouverte aussi avec des crèches ou avec des bâtiments à l'intérieur de l'université qui pourraient être aussi accessibles à la population avec des cours du soir, des frais d'inscription moins chers, tout cet ensemble-là. Donc il y a plusieurs façons de rendre une université démocratique, ou en tout cas de vivre la démocratie au sein de l'université.
Vous avez une vraie rencontre avec John Dewey, vous êtes des amis. Bon, il est mort bien avant votre naissance, mais vous parlez de compagnonnage. Dans votre livre, vous l'imaginez arrivant à l'école de Chicago, enthousiaste, vous regardez une photo, puis vous partez à dire « Ah, il devait se sentir comme ci, comme ça, marcher au soleil ». C'est comme ça que vous le vivez, votre rapport avec John Dewey ?
Oui, j'ai beaucoup personnifié cet auteur, parce que J'ai lu ses travaux, j'ai aussi lu sa correspondance, qui est accessible dans les archives. Et c'est un personnage qui est attachant, en fait, parce qu'il y a vraiment un côté un peu touche-à-tout, et puis très généreux de sa personne. Il y a vraiment des jours où il écrivait 8, 10 lettres, 10 lettres à différents amis pour prendre le temps de répondre à l'un, de corriger le mémoire de tel étudiant, ou d'accepter d'aller faire telle conférence à l'autre bout du monde. Donc il y a un côté très... très généreux, qui en fait vraiment un personnage presque un peu de roman, avec des voyages en Europe, une vie familiale aussi compliquée, avec des deuils, avec des naissances, des joies. Donc c'est un auteur où il y a beaucoup de choses à dire encore.
Et vous, entre le cauchemar de l'université Chandruine et puis le rêve grandiose de l'université étincelante, de quoi rêvez-vous maintenant pour l'université ?
Moi, je rêve pour l'instant d'université qui évoluerait beaucoup sur sa pédagogie. J'aimerais vraiment travailler plus sur la pédagogie universitaire pour faire en sorte qu'on arrête de faire des cours magistraux avec des PowerPoint.
L'abolition
des PowerPoint comme projet. Mais c'est vraiment l'idée de transformer les pratiques des enseignants eux-mêmes. Et on forme très peu les enseignants à enseigner. Et c'est vraiment un manque de pratique qui parfois est un peu déstabilisant, parce qu'on peut avoir des professeurs qui parlent de pédagogie active en faisant eux-mêmes une pédagogie très, très passive. Donc c'est ça qui me fait plutôt rêver pour l'instant.
Christophe Point, merci.
Merci à vous.
Je rappelle que votre livre « Université et démocratie, la pensée éducative de John Dewey » est paru aux presses de l'Université Laval en 2023.